édition spéciale élections législatives françaises.
Philippe Le Caplain.
Et avant de retrouver nos envoyés spéciaux, nos analystes, nos commentateurs, un tour complet de l'actualité internationale avec vous, Nemo Ampis.
Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Autre scrutin que l'on suit sur la radio du Monde, la présidentielle en Mauritanie, c'est le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Cher El Razouani, crédité d'environ 55% des voix, qui est en tête après le dépouillement d'environ 90% des suffrages exprimés. Son principal opposant, Biram Dahabeid, dit déjà qu'il ne reconnaîtra pas les résultats. Nous sommes à Nouakchott dans une demi-heure pour un point sur l'actualité africaine. L'ouragan Beryl qui se dirige tout droit vers les îles du sud-est des Caraïbes, fixé en catégorie 3 ce dimanche, est finalement passé en catégorie 4 en fin d'après-midi. Il a été qualifié d'extrêmement dangereux par le Centre national des ouragans de Miami. Les vents approchent désormais les 210 km/h et présentent des dangers potentiellement mortels selon la même source, notamment pour les îles du vent en Polynésie française, où la tempête est attendue demain matin. En Ukraine, une frappe russe a touché un bureau de poste de Kharkiv, la deuxième ville du pays, ce dimanche. Selon les autorités locales, une personne a été tuée, 9 autres blessés, alors que le gouverneur de la région de Zaporijjia annonçait hier une journée de deuil après une attaque sur la localité de Vilniansk qui a fait 7 morts, dont 3 enfants et une femme. Près de 40 personnes ont également été blessées, selon le ministère de l'Intérieur. Hier, toujours 3 autres personnes décédées après des frappes sur des villages de la région de Donetsk. Un bilan alourdi en Turquie après l'explosion d'une bonbonne de gaz dans un restaurant de la ville de Torbali dans l'ouest du pays. Ali Yerlikaya, le ministre de l'Intérieur, évoque désormais 5 morts et près d'une 60aine d'autres blessés. La détonation a été ressentie à plusieurs kilomètres à la ronde selon l'agence de presse officielle Anadolu. En France, 3 personnes décédés dans le crash de leur avion de tourisme. L'appareil s'est écrasé sur l'autoroute A4 sur la commune de Noisiel, selon une source policière. L'accident se serait produit après un contact entre l'avion et une ligne à haute tension. Aucun véhicule n'a été touché. L'autoroute, elle, a été bloquée dans les deux sens. Et puis un mot de sport, de cyclisme d'abord. Tadej Pogacar, déjà en jaune sur le Tour de France. Après seulement 2 étapes, le Slovène s'est emparé de la place de leader du classement général. Une seule journée en jaune donc pour le Français Romain Bardet. Et c'est un autre Français qui s'est imposé ce dimanche en Italie, Kevin Vauclin. Les coureurs sont arrivés à Bologne. Du football également ce soir avec la suite des 8e de finale de l'Euro 2024. La qualification il y a quelques minutes de l'Angleterre, 2-1 face à la Slovaquie après prolongation. L'autre rencontre de la soirée oppose l'Espagne à la surprise de la compétition, la Géorgie à Cologne. Le match vient de démarrer. 21h03 ici à Paris, la suite de notre édition spéciale avec vous, Philippe Le Caplain, Valérie Gasse et vos invités.
Oui, et pour ce qui est de l'actualité en France, elle est dominée bien sûr par ce premier tour des élections législatives anticipées. 65 à 85 élus dès le premier tour et parmi eux, Juliette Pétiaskiewski, Marine Le Pen.
Effectivement, Marine Le Pen a été réélue dans sa circonscription dès le premier tour. Chez les Républicains, Laurent Wauquiez est en tête dans son fief de Haute-Loire avec 36% selon des résultats partiels. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, arrive en tête de sa circonscription avec plus de 44% des voix. Fabien Roussel du PCF annonce avoir été battu dans sa circonscription par le candidat du RN. À gauche, toujours François Ruffin n'arrive pas en première, mais deuxième position dans sa circonscription avec 27,3% des suffrages. Et puis François Hollande arrive, lui, en tête dans sa circonscription pour ce premier tour. Du côté des déclarations, le deuxième tour des législatives sera l'un des plus déterminants de toute l'histoire de la Ve République, a déclaré Jordan Bardella, qui entend être le Premier ministre de tous les Français en cas de victoire le 7 juillet. Emmanuel Macron appelle à un rassemblement face au RN. Pour le Président de la République, la participation élevée de ce soir montre une volonté de clarifier la situation politique. Nous avons 7 jours pour éviter à la France une catastrophe, a déclaré de son côté Raphaël Glucksmann, qui appelle à barrer la route à l'extrême droite à tout prix. Édouard Philippe appelle quant à lui les candidats Horizon arrivés troisième à se retirer pour éviter l'élection des députés du RN ou de LFI. Réaction chez LFI, Manuel Bompard, qui a réagi aux propos du maire du Havre. Mettre sur le même plan le RN et LFI est inacceptable et insupportable. Fin de citation.
Et tout cela est la conséquence des estimations de vote et des premiers résultats.
Alors, selon nos estimations Ipsos, le RN et ses alliés obtiendraient 34% des voix, le Nouveau Front Populaire 28,1% et la majorité 20,3%.
Juliette Pietraszewski sur RFI.
Le premier tour des élections législatives françaises.
Bonsoir Yann Brossat.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du Nouveau Front Populaire, sénateur de Paris. Votre réaction ce soir à l'annonce donc du résultat du Nouveau Front Populaire, je vais y arriver, 28,1%. C'est une déception pour vous?
En tout cas, je ne pense pas que l'heure soit à commenter les résultats d'un camp. Le seul sujet pour moi, c'est comment on fait en sorte de battre l'extrême droite dimanche prochain. Il faut regarder la réalité en face, et la réalité, c'est qu'il y a une forte probabilité que l'extrême droite, dimanche prochain, ait une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Et donc je pense que tout, absolument tout, doit être fait pour éviter ce péril qui est devant nous, parce que l'extrême droite, demain, ce sera le chaos, ce sera des Français montés les uns contre les autres. On l'a encore vu récemment avec la polémique qui a été lancée par le RN sur la question des binationaux. Je ne veux pas de cela pour la France, et donc il faut absolument tout faire pour éviter une victoire de l'extrême droite dimanche prochain.
Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez dire de plus par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été dit durant 15 jours de campagne électorale?
Bah, d'abord, il y a des décisions très concrètes qui vont être prises, notamment des désistements républicains visant à faire en sorte qu'on maximise les possibilités de victoire dans chaque circonscription face à l'extrême droite. Et je pense que les Français doivent regarder de plus près ce que contient le programme de l'extrême droite. Aujourd'hui, ce que propose M. Bardella, il a d'ailleurs fini par l'avouer lors d'un débat sur TF1, c'est la retraite à 66 ans. Voilà des gens qui passent leur temps à expliquer qu'ils défendent les familles modestes, qu'ils défendent le peuple et qui, en réalité, nous proposent la retraite à 66 ans. Ce sera, au fond, Macron en pire, le racisme en plus. Eh bien, je pense que si on ne veut pas de cette perspective pour la France, il faut se mobiliser, nombreux, et faire barrage à l'extrême droite. À la fois, il faut encore plus de participation, et puis il faut qu'il y ait de bons reports dans chaque circonscription pour éviter la victoire des candidats du Rassemblement national.
Est-ce que la gauche et le Nouveau Front Populaire entend continuer à installer dans la campagne électorale la situation au Proche-Orient, l'antisémitisme? Tout à l'heure, on voyait et on écoutait Jean-Luc Mélenchon. Il avait à côté de lui Rehan Hassan, qui est cette députée pro-palestinienne. Est-ce que là-dessus, vous allez continuer ou vous allez changer d'orientation pour espérer écarter finalement ces propos qui peuvent être repoussoirs et qui peuvent desservir votre parti, votre coalition?
Je pense que ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est la France. Le sujet, c'est quelle France on veut demain. Est-ce qu'on veut une France fidèle à ses valeurs républicaines de liberté, d'égalité, de fraternité, ou est-ce qu'on veut pour la France un projet, celui de l'extrême droite, qui prône la préférence nationale, qui monte les Français contre les étrangers, qui parmi les Français distingue ceux qui ont une nationalité de ceux qui sont binationaux. Est-ce que c'est cette société-là qu'on veut? Je le dis très clairement non, et pour moi, c'est ça le sujet fondamental que les Français devront trancher dimanche prochain par leur bulletin de vote, et je les invite vraiment à utiliser le bulletin de vote dans leur circonscription le plus efficace pour battre l'extrême droite et éviter ce projet funeste pour notre pays. Ça n'est pas ça la France. La France, c'est pas des Français qui se détestent et qui se regardent en chien de faïence. France, c'est une nation qui est fondée sur le principe d'égalité des citoyens.
Yann Brossat, une question de Valérie Gasse, chef du service politique de RFI.
Oui, Monsieur Brossat, donc vous avez compris que vous ne pourriez pas avoir vous-même gagné ces élections législatives. Que pensez-vous de ce qui semble se présager? Édouard Philippe en a déjà parlé, mais il y aura des consignes de vote d'ensemble pour la République qui consisteront à se désister en cas triangulaire, mais seulement si les candidats qui arrivent en deuxième position, c'est-à-dire généralement les candidats du Nouveau Front Populaire, sont issus des écologistes ou des socialistes, hein, et excluant LFI.
Je pense que tout ça n'est pas très digne. D'ailleurs, Édouard Philippe, par le passé, nous a habitués à des réflexes républicains plus solides. Mesurons le danger que nous avons face à nous. Le danger, c'est une victoire de l'extrême droite. Et j'invite quand même les macronistes à regarder ce que nous avons été capables de faire à deux reprises à l'élection présidentielle. si Macron a été élu face à Madame Le Pen, c'est parce que les électeurs de gauche ont décidé de jeter dans l'urne un bulletin Macron, alors même que nous avions de très grandes divergences avec ce qu'il proposait. Mais nous avions une boussole républicaine. Eh bien, je crois que les macronistes aujourd'hui doivent retrouver leur boussole républicaine et faire ce que nous allons faire, nous, c'est-à-dire prendre nos responsabilités face à l'extrême droite partout.
Yann Brossat, porte-parole du nouveau Front Populaire et sénateur de Paris. Merci d'avoir été en direct dans cette édition spéciale sur Radio France Internationale. Puisqu'on parle du NFP, sachez que François Ruffin de LFI annonce être arrivé deuxième derrière le Rassemblement National dans la Somme. Et Aurélien Devernois, vous êtes au quartier général de la France Insoumise. J'évoquais le sort de Fabien Roussel, le chef du Parti communiste, tout à l'heure. Vous avez une confirmation ?
Fabien Roussel a confirmé qu'il était battu dès le premier tour, c'est-à-dire que son adversaire Guillaume Florquin du Rassemblement National est élu à l'Assemblée nationale dès le premier tour, ce qui est évidemment un cataclysme pour le patron du Parti communiste, pour le Parti communiste en entier, et qui pose la question désormais d'un certain nombre de cas similaires. En fait, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas les résultats des grandes villes, mais globalement, les candidats, les figures du nouveau Front populaire dans les zones semi-rurales, périphériques, etc., sont globalement balayés par la vague Rassemblement National. Alors François Ruffin s'en sort, mais très difficilement. Il a 18 points de retard. Imaginez, ça va être très 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 compliqué à rattraper au second tour. Même François Hollande, dans son fief de Corrèze, n'a que finalement très peu d'avance sur la candidate du RN.
38%, 6 points,
hein, ouais. Avec le risque d'une triangulaire qui pourrait être également compliquée. Donc c'est vraiment très très rude. Alors c'est vrai que pour les insoumis c'est un peu moins le cas, parce que la plupart des figures insoumises sont plutôt élues dans les grandes villes, donc dont on attend les résultats, mais qui a priori devraient être assez positives pour ces élus. Mais en tout cas, la situation est quand même grave ici du côté du nouveau Front populaire, avec une dynamique qui n'est pour l'instant, ça peut changer durant la semaine qui vient, mais qui n'est pour l'instant pas vraiment en faveur de l'Alliance de la gauche et des écologistes.
Bah justement, Erwan Lestrand, vous êtes, je rappelle, un directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Ça fait un peu plus d'une heure maintenant qu'on a les tendances et de premières projections. Concernant la gauche et le nouveau Front populaire, est-ce que vous parleriez de performance ou de contre-performance ?
Alors, c'est pas une contre-performance, parce que en réalité, les listes de la NUPES avaient recueilli 26% des voix aux législatives de 2022. C'est une performance qui est donc 2 points au-dessus du niveau de 2022, ce qui est quand même une performance assez satisfaisante si on se place à l'aune des affres de la NUPES depuis 2 ans. Donc c'est quand même bien de se maintenir dans les urnes, alors que le mariage heureux n'était pas une garantie à la formation du nouveau Front populaire. Maintenant, le petit écueil pour tout ça, c'est qu'il y a quand même une petite remontée du Bloc Ensemble qui est pas si loin de ces 25% de 2022, et peut-être que les candidats du nouveau Front populaire arrivent plus souvent troisième que deuxième dans leur prévision initiale. Reste à savoir maintenant, vu que LFI fait plus figure de repoussoir, on le voit d'ailleurs, nous, dans les rapports de force pour le deuxième tour, on a beaucoup plus de gens qui nous disent qu'ils voteraient pour un candidat écologiste ou pour un candidat PS que pour un candidat LFI. Le nouveau Front populaire n'est pas uniforme dans l'esprit des Français au-delà de la gauche. Donc reste à savoir quand même, au deuxième tour, quelle proportion il reste de socialistes, d'écologistes et d'insoumis parmi les investis encore en lice. Maintenant se posera aussi la question, et c'est ce que Yann Brossat parlait de Front républicain, maintenant faudra voir l'ampleur du Front républicain quand la menace est réelle, parce que pour l'instant, on a eu des menaces, mais qui étaient quand même assez distantes. On verra si le Front républicain est capable de persister dans ce concept, parce que pour l'instant, les reports de vote en faveur des listes de gauche de la majorité présidentielle sont très bas. Si on arrive à un duel Rassemblement national contre Nouveau Front Populaire, il y a uniquement 25% des électeurs d'ensemble au premier tour qui disent qu'ils iront soutenir le Nouveau Front Populaire. C'est-à-dire que les trois quarts ne le feront pas, les réserves de voix sont très limitées, favorisent le RN, et c'est vrai qu'on parle de Front Républicain et ça va être une des problématiques. Je vous donne une statistique intéressante. 7% des configurations, des seconds tours du RN avaient été gagnés en 2017. Le RN a gagné 43% de ses seconds tours en 2022. Donc le plafond de verre de deuxième tour n'existe pas vraiment. On réfléchit sur des triangulaires, sur des désistements, mais la notabilisation du Front National, sa normalisation dans l'opinion, ont fait sauter le plafond de verre du second tour. Donc c'est tout ce sujet qui va être important dans la semaine qui va s'écouler, c'est la question de l'acceptabilité sociale d'une victoire du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. C'est savoir si c'est acceptable socialement pour la moitié des Français. Aujourd'hui, on a 3 sur 10 qui nous disent que ce serait une bonne chose que le RN accède au pouvoir, 4 sur 10 qui nous disent que ce serait une mauvaise chose, et 3 sur 10 qui sont suspendus, c'est ceux-là qui vont devoir bouger cette semaine, qui nous disent que c'est ni une bonne chose ni une mauvaise chose, c'est le jeu de l'alternance démocratique. Le Front républicain, ça va être le challenge de l'installer aussi dans l'opinion, alors qu'il est plutôt détérioré aujourd'hui.
On va revenir sur le Rassemblement national dans quelques instants, mais avant cela, la gauche, le nouveau Front populaire, je rappelle Valérie Gasse, hein, c'est LFI, c'est le PS, c'est Europe Écologie Les Verts et le Parti communiste français. Votre analyse sur le résultat.
Non, mais pour revenir sur ce que disait Monsieur Lestrouan, déjà, on avait en début de soirée ensemble le parti présidentiel, enfin la coalition présidentielle, qui était à 22. Là, ils sont déjà plus qu'à 20,7 chez notre partenaire Ipsos. Donc, malgré tout, il y a quand même un bel écart avec le nouveau Front populaire. C'est pour relativiser l'échec, ce que vous disiez tout à l'heure. Et puis, ce qui va aussi se jouer dans cette consigne de vote ou pas consigne de vote, il est vrai que si dans le camp d'Emmanuel Macron, on n'a vraisemblablement pas appelé à se désister et à voter systématiquement pour les candidats du nouveau Front populaire, surtout quand ils sont LFI, c'est parce que, comme vous le disiez, eh bien, les électeurs ne sont pas prêts à le faire. Donc, il y a une question de réalisme politique. Mais ce qui va se jouer, c'est ensuite, si le Rassemblement national n'a pas la majorité absolue, il va y avoir des coalitions qui vont devoir se former. Qui va envoyer un Premier ministre à Matignon? Et là, c'est là qu'on va voir, suivant ces consignes de vote et la capacité de l'ex-majorité à trouver des partenaires dans le nouveau Front populaire, à pouvoir faire des coalitions de gouvernement, ce qui n'est pas très habituel en France. Mais ça va aussi laisser des traces, ce qui va se jouer là, les consignes de vote qui vont être données ou pas données et les rancœurs qui vont en découler. On entendait Yann Brossa qui disait les électeurs de gauche, ils ont voté pour Emmanuel Macron en 2022 alors que certains n'avaient plus très envie de voter pour lui, mais pour faire barrage à Marine Le Pen. Maintenant, cette nouvelle assemblée qui va être totalement inédite, s'il n'y a pas de majorité absolue, si le RN n'est pas en capacité d'envoyer Jordan Bardella, comme il s'y prépare, à Matignon, eh bien, ce qui va se passer dans cet entre-deux-tours va laisser des traces.
Vous écoutez Radio France Internationale, édition spéciale consacrée à ce premier tour des législatives.
Édition spéciale, élections législatives françaises. Philippe Le Caplain.
Avec les toutes dernières estimations d'Ipsos concernant le vote d'aujourd'hui, Rassemblement National et ses alliés, 33,5% des voix. Le nouveau Front Populaire, c'est-à-dire la gauche, 28,1% des voix. Et les Républicains divers droite recueilleraient 10%. J'oubliais Ensemble, qui est bien le parti, la coalition présidentielle, on va dire, 20,7% des voix. Donc un RN à 33,5%. Pierrick Bonneau, vous êtes au pavillon Wagram, qui se trouve juste à côté de l'Arc de Triomphe, c'est peut-être pas un hasard d'ailleurs. Racontez-nous ce qui se passe là-bas depuis maintenant 1h15.
Alors la plus grand chose, Philippe, hein, le pavillon Wagram se vide progressivement ici dans le 8e arrondissement de Paris, une grosse demi-heure après l'allocution de Jordan Bardella. Pour le Rassemblement National, la soirée s'est limitée finalement à 2 prises de parole. Ce soir, rien de plus, pas d'effusion de joie, pas de fête avec les militants, mais un message aux électeurs, il faut rester mobilisé. Il y a d'abord eu vers 20h10 la première prise de parole de Marine Le Pen, candidate à sa réélection et victorieuse dès le premier tour, pas à Paris la prise de parole, mais à Hénin-Beaumont, sa circonscription du Pas-de-Calais, une Marine Le Pen qui a remercié les électeurs qui ont donné leur voix au RN et tenté de rassurer les Français. En cas de majorité absolue, nous formerons la coalition du respect et de la liberté des droits des Français. Allocution très courte de Marine Le Pen, 4 minutes, pas une de plus. Et puis la deuxième allocution de la soirée côté RN, c'était ici au pavillon Wagram à Paris, celle de Jordan Bardella, pas beaucoup plus longue, à 5 minutes. On sent vraiment que le parti veut maîtriser sa communication, hein, limiter, marteler les mêmes messages ce soir, car le patron du RN a eu quasiment les mêmes mots que son aîné derrière un pupitre sur lequel il est écrit « L'alternance commence », comme quoi quelque chose commence ici pour le RN. Des mots pour rassurer les électeurs. « J'entends être le Premier ministre de tous les Français. Je serai toujours garant de vos libertés, de vos droits », a insisté le patron du RN, qui a bien conscience que dans beaucoup de circonscriptions, ses adversaires vont jouer la carte du Front républicain pour empêcher l'arrivée du parti d'extrême droite au pouvoir. Et puis Jordan Bardella s'attaque à la France insoumise, qui va se retrouver au deuxième deuxième tour face au RN dans beaucoup de circonscriptions. Les Insoumis accusés d'être un danger pour la République. 7 jours nous séparent d'un jour historique, conclut Jordan Bardella, avant de repartir dans sa voiture. Pas d'expression particulière sur le visage du patron du RN ce soir, qui a l'air concentré. Hein. Ses collaborateurs, eux, en revanche, ont le sourire ce soir.
Le Rassemblement National qui a vu Éric Ciotti dès le lendemain de l'élection européenne lui a porté ses voix, son soutien, alors en partie, hein, puisqu'il y a une division, une scission au sein de LR. Le président de LR se présente à Nice et il vient de dire ceci.
L'heure est grave ce soir, car la France, la démocratie et nos institutions pourraient être demain en péril si l'extrême gauche venait à accaparer le pouvoir dans une alliance contre nature. Plus que jamais, c'est au peuple de France et en son sein, à tous ceux qui partagent des convictions de droite, de prendre leurs responsabilités. Ce soir, il n'est plus possible de refuser de faire un choix entre notre union responsable, patriote et républicaine et ce terrifiant danger d'extrême gauche.
Éric Ciotti, LR, a coquiné maintenant au Rassemblement National. Jean-Yves Camus, spécialiste de l'extrême droite. Est-ce que l'avance confortable du RN ce soir, 33,5%, est liée aussi à ce renfort de la frange des Républicains alliés à Éric Ciotti?
Oui, en partie. D'ailleurs, ça couvre depuis très longtemps cette affaire. Au fond, Éric Ciotti a procédé à une clarification. Cette clarification, elle était en suspens, mais en l'écoutant ce soir, j'ai l'impression de rajeunir énormément parce que je me crois revenu entre 1980 et 1983.
C'est-à-dire,
dès l'époque où, rappelez-vous, il y a une élection municipale partielle dans la ville de Dreux qui oppose une maire socialiste sortante, Françoise Gaspard, qui passe pour incarner l'aile la plus avancée du PS. Et un notable local qui appartient à la droite post-gaulliste, Jean Yeux. Et entre les deux tours, il y a cette alliance entre donc le candidat de droite et le Front National de l'époque représenté par Jean-Pierre Sirbois. Et les électeurs n'y voient pas grand-chose à redire, puisqu'ils disent, alors certes c'est un scrutin local, mais c'est quand même une période où on entend déjà à l'intérieur du RPR de l'époque un certain nombre de voix qui disent, mais finalement, face à une gauche qui, à l'époque, rappelons-le, comprend des ministres communistes, hein, et il faut faire front commun. Il y a dans les paroles d'Éric Ciotti quelque chose qui est à la limite plus radical, bah, beaucoup plus radical en fait, que ce que Marine Le Pen a dit tout à l'heure. Je l'ai trouvé, moi, beaucoup plus rassurante que l'espèce d'apocalypse que nous promet Éric Ciotti, parce qu'il est franchement pas question, de toute manière, que l'extrême gauche accapare le pouvoir. On en est tout de même très loin. Et il s'agit d'un péril terrifiant, nous dit-il. Donc on voit bien la dramatisation des enjeux. Bon, on est passé très clairement à une autre page de l'histoire des droites, hein, qui n'est plus une page gaulliste. Ça, je pense que c'est absolument évident.
Puisque vous parlez d'histoire, à l'automne dernier, Marine Le Pen annonçait que si elle accédait à l'Élysée en 2027, Jordan Bardella deviendrait son Premier ministre. Ce pourrait être donc plus tôt. L'histoire s'accélère soudainement pour l'extrême droite. C'est bien cela auquel on assiste. Hein.
Oui, mais attendez, ça ne se passe pas comme ça, en fait. Ça ne se passe pas comme ça, parce que si Marine Le Pen est élue présidente de la République en 2027, il y aura un mois après des élections législatives. Et les Français auront le choix entre conforter leur choix de la présidentielle ou, au contraire, ben, se dire que finalement...
Pas obligatoirement, en fait, si elle dissout.
Oui, mais enfin, c'est quand même une des hypothèses.
Oui.
C'est quand même une des hypothèses. On a d'abord une élection présidentielle qui n'est pas jouée d'avance. Moi, ce qui me sidère dans tout cela, c'est qu'on fait comme s'il y avait une sorte de scénario mécanique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de prédictabilité, en fait, de l'arrivée au pouvoir du Rassemblement National. Or, il serait bien plus fécond de s'interroger sur, par exemple, la géographie du vote, sur les déterminants du vote, de manière à pouvoir élaborer, que l'on soit nouveau Front populaire ou majorité présidentielle, peu importe, voire LR, des réponses qui soient de vraies réponses et non pas des incantations. Parce que quand on regarde cette carte du vote, tout de même, qui n'est pas définitive, on voit le RN percer où, être élu où, dans cette sorte de diagonale du vide, où aujourd'hui, d'abord, le revenu est inférieur à la moyenne nationale, où les services publics ont déserté le terrain, voire n'existent plus, où l'enclavement territorial est supérieur aux autres régions. Donc il y a des raisons sociologiques à cette lente ascension qui va de pair avec la dédiabolisation. Mais la dédiabolisation ou la normalisation, il est aussi le fait que pour des électeurs qui habitent la Nièvre ou les Ardennes, ou la Creuse, département où le RN apparemment réalise une belle percée. La peur, c'est quoi? La peur liée à l'arrivée du RN, c'est plus rien, parce qu'ils ont essayé à la fois la gauche et la droite, et leur sort ne s'en est pas trouvé amélioré. Donc ils se disent qu'après tout, si demain ils élisent un député Rassemblement National et qu'ils n'en sont pas satisfaits, eh bien la démocratie fera son œuvre et qu'ils choisiront autre chose.
Jordan Bardella est le patron du RN pour ses, pour. Je vous demanderai tout à l'heure la spécificité de ce vote, peut-être en faveur de lui, de sa personnalité. On y reviendra tout à l'heure. Mais nous sommes en ligne avec Bruno Belin, qui est sénateur Les Républicains de la Vienne. Bonsoir à vous, monsieur.
Bonsoir.
Alors juste pour qu'on arrive à vous situer, est-ce que vous êtes plutôt sur la tendance Ciotti ou la tendance des historiques des Républicains?
Alors je vais prendre votre expression, je suis canal historique. Moi, je suis un ancien du RPR, un chiracien, donc un humaniste.
Très bien.
Et je ne me suis pas du tout reconnu dans la démarche du député de Nice.
Qu'est-ce que vous pensez du fait que votre parti ne donne pas de consigne de vote pour le deuxième tour, ce qui veut dire que certains de vos électeurs pourraient être tentés ou encouragés, à défaut, à voter Rassemblement National?
Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on a eu un premier tour où il y a d'un côté un vote d'humeur qui a été très entendu, c'est ce qui explique les 34% du Rassemblement National, parce que c'est un vote de protestation, parce qu'il y a un vote de désespérance dans une partie de la ruralité. Le second tour, c'est une autre histoire, qui va se faire 577 élections différentes, où la personnalité du candidat va jouer, où évidemment les intérêts locaux rentrent en ligne de compte, et donc... Je crois que les messages de parti qu'on a pu connaître à la fin du XXe siècle ne vont pas forcément se reconnaître dans l'expression du 7 juillet. Ça va être du cas par cas. Et on le voit bien dans le département où je suis élu, dans le département de la Vienne. La majorité départementale se retrouve derrière la majorité présidentielle pour dire non au Rassemblement National.
Aurélien Pradier a quitté le parti LR cette semaine. La présidence du parti fait l'objet d'un tiraillement. Est-ce que vous devez passer à autre chose? Est-ce que vous devez recomposer la droite classique, la droite républicaine?
Beaucoup de mal à notre famille historique. Il y a quelque temps, ça a été les... duel juridique, Copé-Fillon, toutes ces histoires-là, et même certaines dans les affrontements de primaire ou à l'élection de la présidence avec les adhésions fantoches. Voilà, je crois qu'il faut effectivement trouver un autre état d'esprit si on veut continuer à servir la France comme les gaullistes l'ont toujours fait.
Les Républicains, donc dans ce deuxième tour, vous dites, ce sera du cas par cas. Cela dit, il y a quand même cette consigne de vote qui n'en est pas une. Là, on ne parle pas de cas par cas. Pourquoi cette espèce de flou artistique, si je puis dire?
Moi, j'assume complètement. La discussion, elle doit être au cas par cas, en fonction des enjeux de territoire, des personnalités, parce que on ne peut pas traiter pareil, effectivement, dans les candidats Front Populaire, où ils ne s'entendront pas demain pour gouverner ensemble. Et il y a des sociodémocrates et il y a des LFIs qui sont évidemment dans une autre démarche. C'est pour ça qu'il faut regarder au cas par cas. En tout cas, c'est la position. Moi qui ne suis plus membre des Républicains depuis 2017 parce que trop touché par les affaires, trop affecté par les affaires, pardon. En tout cas, c'est une famille, la famille gaulliste, qui a toujours eu comme esprit le rassemblement. Et le rassemblement, c'est pas mettre les gens sur la touche.
Une rapide question d'Arégas.
Oui, monsieur Belin, est-ce que vous avez l'impression d'avoir un peu limité la casse par rapport à ce que ça aurait pu être après toute l'affaire avec Éric Ciotti? On vous donne aux alentours de 10% ce soir.
Comme vous le dites vous-même, cette affaire est pitoyable, parce que quand on est à vouloir changer les serrures ou à se pavaner à un balcon devant un bureau vide pour dire « c'est moi le chef », c'est pas ça, affirmer être l'esprit d'une famille politique, c'est être sur le terrain, écouter les messages, défendre les candidats, défendre nos valeurs, qui sont les valeurs de la Ve République, celles où voilà, on est à la fois... pour une France forte, une France qui est respectée, une France qui est écoutée. Et surtout, on écoute le territoire, le terrain et le ressenti d'une population qui est parfois en souffrance, parfois en désespérance.
Merci pour ces déclarations, Bruno Belin, sénateur LR, Les Républicains de la Vienne. Merci d'avoir été en direct ce soir sur Radio France Internationale.
Édition spéciale, élections législatives françaises. Philippe Le Caplain.
Elle continue dans un instant, mais avant cela, un tour d'actualité, un tour d'horizon de l'actualité africaine. Nemo Ampis.
La direction de la Mauritanie, toujours dans l'attente.